Voici le quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 2002. Voici le menu des agapes. Une tuerie à la mairie de Nanterre. Un sniper qui terrorise les États-Unis. Un milliardaire qui veut conquérir l'espace. Le Sénégal qui bat la France à la Coupe du Monde de foot. Et Renault qui revient en duo avec Axel Red.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2002.
Le 27 mars 2002, au réveil, les Français apprennent qu'une tuerie a eu lieu dans la nuit à la mairie de Nanterre.
Mardi 27 mars, il est 7h30. Nanterre, fusillade meurtrière à la mairie à l'issue du conseil municipal, 8 morts. Toute l'actualité de Navidal Revel.
On peut parler d'une véritable scène d'horreur, d'une scène de guerre à Nanterre. Cette nuit, un homme a donc ouvert le feu à l'arme automatique en plein conseil municipal. Le bilan est extrêmement lourd, 8 morts et 14 blessés graves. L'homme a pu être maîtrisé, il est âgé d'une trentaine d'années.
À 1h du matin, le conseil municipal de Nanterre venait de se terminer et un homme qui se trouvait dans le public s'est levé et il s'est mis à tirer sur les élus qui s'apprêtaient à partir. Lucia Bâtard était parmi eux.
Et puis, au moment où je me levais pour sortir, un type dans l'assistance a tiré. Il avait au moins 2 ou 3 revolvers.
Ça a duré longtemps ?
Oh, je peux pas vous dire. Je crois que oui, ça a duré très longtemps. Il a dû tirer, il remettait des chargeurs, il a dû tirer, je sais pas, 40-50 cartouches. Moi, j'ai eu la chance d'être levé, c'est ce qui m'a sauvé, je pense, parce que j'ai réussi à aller vers le fond de la salle du conseil et j'ai pu appeler la police tout de suite, quoi, sur mon téléphone, dans mon bureau.
Et pendant ce temps-là, vos collègues du conseil municipal, qu'est-ce qu'ils faisaient ?
Eh ben, ils faisaient, tout le monde, c'était l'affolement, tout le monde. Il y en a qui ont eu le réflexe de se jeter derrière leur tablette de bureau.
Le tireur a été très vite maîtrisé, comme le raconte le capitaine Laurent Vibert, des pompiers de Paris.
Alors il était rapidement maîtrisé par le sang-froid et le courage des personnes qui étaient à l'intérieur de la salle, dont une a été grièvement blessée en essayant de le mettre au sol. Il a été mis tout de suite à disposition de la police qui était très rapidement également sur les lieux et il est actuellement dans les mains de la police.
Et qu'est-ce qui s'est passé après les tirs et après qu'on les maîtrisait ? Il y a un mouvement de panique, un mouvement de stupéfaction ?
Il y a eu un mouvement de stupéfaction. Comme dans les attentats, les gens sont plus dans un état de sidération, c'est-à-dire qu'ils restent choqués sur le lieu de l'intervention. Ils ont porté secours à leurs camarades ou aux conseillers qui étaient sur place. On ne peut pas parler de panique, on parle là d'un état de stupéfaction en effet.
Oui. Le tueur s'appelle Richard Dern, 33 ans. Il n'a exprimé aucune revendication particulière. Au moment de son interpellation, il a juste hurlé « Tuez-moi ! Tuez-moi ! » Bilan, 8 morts et 14 blessés.
Autour de l'hôtel de ville, c'est évidemment un choc considérable. Depuis une demi-heure, les premiers employés arrivent. Ils ont appris la nouvelle ce matin par la radio. Les visages sont marqués, chacun connaissait de près au moins l'une des victimes. Les noms circulent actuellement dans des conversations à voix basse entre collègues. Dans cette ambiance de deuil se succèdent depuis ce matin le Premier ministre, puis le président Chirac, qui actuellement est à l'intérieur de l'hôtel de ville. Robert Rue vient aussi d'arriver dans cette municipalité communiste où personne ne parvient pour l'instant à comprendre ce geste meurtrier.
Le jour de la tuerie, Europe 1 retrouve la maman de Richard Dern, d'origine yougoslave. Elle a appris le geste dramatique de son fils en écoutant la radio.
Madame Dern ne veut pas ouvrir la porte, elle ne veut pas se montrer, mais elle veut parler, raconter sa vie, celle de son fils, à travers la boîte aux lettres. La petite voix s'emporte, parfois s'arrête aussi pour pleurer. Et puis Madame Dern se confie. Les mots sont terribles. Oui, glisse-t-elle, il m'avait déjà dit qu'il voulait tuer des gens. Écoutez bien, il faut tendre l'oreille pour comprendre les paroles de cette mère complètement brisée.
C'est dégueulasse, vraiment. J'ai toujours... Pas sûr, mais j'ai toujours essayé, rentre cette arme, tu vas faire une bêtise, Richard, écoute-moi, je l'ai supplié, mais j'ai dit, il faut avoir des armes avec le temps, avec quoi on se protège et tout ça, tu vas faire une connerie un jour, tu seras en prison, Richard. C'était pas dans l'état normal, il n'a jamais été dans l'état normal.
Il voulait tuer, mais il voulait surtout se tuer, se suicider, continue la mère de Richard en pleurant. Malgré ses études, ses petits boulots, sa famille, ses engagements politiques, il ne supportait plus cette vie, sa vie, dit-elle. Nanterre, Guillaume Porteux, Europe 1.
Alors que Richard Dern est interrogé par la police, Sophie Larmoyer, d'Europe 1, mène l'enquête. Et elle retrouve le club de tir dont Richard Dern était un membre actif depuis 3 ans. Et elle recueille le sempiternel Il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde.
Complexe sportif Marcel Payan de la Garenne-Colombes. Sur la pelouse ce mercredi, des gamins jouent au foot. Dans le fond derrière, un bâtiment moderne dans lequel se trouvent les locaux du tir sportif garennais, locaux prêtés par la mairie. Un petit secrétariat, une première salle où l'on tire à 10 mètres et au plomb, puis une seconde, plus grande, 25 mètres entre les pas de tir et les cibles. C'est là que Richard Durne, tireur assidu, s'est entraîné encore ces derniers jours, confie la responsable de l'accueil.
Eh bien, c'est un tireur régulier qui tire à balle. Je ne sais pas quel calibre, mais il tire à balle. C'est un stand de tir où on tire à 25 mètres.
Est-ce qu'il venait avec ses propres armes ?
Non, il venait avec ses armes.
Qu'est-ce que vous diriez de Richard Durne ?
Eh bien, c'est monsieur tout le monde. Rien de spécial, discret. Il ne fait pas plus d'émeutes qu'un autre, il n'en fait pas moins. Monsieur tout le monde.
Qu'est-ce que ça veut dire d'un tireur qui posait pas de problème ? Ça veut dire quoi concrètement ?
Quelqu'un qui tire dans les consignes de sécurité et qui vient régulièrement, qui valide son carnet en temps et en heure, qu'on n'a pas besoin de réprimander parce qu'il se tient mal.
Le 28 mars 2002, au matin, Richard Durne est en garde à vue au célèbre 36 Quai des Orfèvres à Paris. Mais subitement, il se jette par la fenêtre et il tombe dans le vide.
Il est 10h15, Richard Durne entame sa 30e heure de garde à vue dans un petit bureau de la brigade criminelle situé au 4e et dernier étage. Deux enquêteurs l'interrogent dans un climat de relative détente. L'un d'eux lui demande de se lever pour consulter un document. Il lui enlève les menottes et soudain, Richard Durne bondit vers un vasistas. Il l'ouvre et l'enjambe. Les deux fonctionnaires tentent de le retenir par les jambes. En vain, Richard Durne, particulièrement déterminé, saute dans le vide et l'un des policiers manque de tomber. Il sera blessé à la main.
Normalement, quand un accusé meurt, l'enquête judiciaire s'arrête. Mais là, exceptionnellement, le procureur de Nanterre choisit de poursuivre les investigations. Et l'enquête révélera que Richard Durne était signalé pour des problèmes psychiatriques. Le drame de la tuerie de Nanterre entraînera une modification de la loi autorisant la détention d'armes. Pour posséder une arme, il faudra disposer d'un certificat médical attestant d'un état de santé physique et psychique compatible.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2002.
Début octobre 2002, à Washington, le FBI traque un tueur en série. Un sniper qui frappe au hasard. Le 2 octobre 2002, il abat 6 personnes d'une seule balle chacun, tirées à longue distance. Les victimes n'ont aucun lien. Un paysagiste, une caissière, une babysitter, un chauffeur de taxi. Le tueur a l'air de tuer au hasard. Et la panique s'empare de Washington. Astrid Barr, d'Europe 1, retrouve une Française qui vit aux États-Unis.
Une ambiance très curieuse, un peu entre le thriller et la science-fiction, parce que c'est un homme, un seul, peut-être accompagné, qui fait peur à toute la ville. Et c'est quelqu'un d'invisible. Et tout le monde vit avec l'idée de cet homme invisible au-dessus de la tête. Donc on range les tables des cafés, on rentre les élèves à l'intérieur des établissements scolaires, certains scotchent du papier sur les fenêtres des établissements de manière à ce qu'on ne voit pas les élèves à l'intérieur. Il n'y a plus de vie extérieure et par endroits, on a vraiment le sentiment de vivre dans une ville fantôme. Les gens changent leur habitude de vie, les gens en parlent, certains ont peur. Donc c'est vraiment une forme d'angoisse collective. Je laisse pas ma fille qui a 13 ans, qui a le même âge que le petit garçon qui s'est fait tuer il y a deux jours, traîner dans la rue, quand je dis traîner, s'amuser dans la rue, tout simplement. On est vraiment dans un roman, dans un mauvais roman de politique fiction américaine.
Deux jours plus tard, on en est à 10 morts, dont un enfant de 13 ans. La traque du tueur est suivie en direct à la télévision. On ne parle plus que de ça. Et le FBI patine et demande à la population de se méfier d'une camionnette blanche.
Le Pentagone aurait dressé une liste de militaires ayant récemment quitté l'armée et qui sont passés par des écoles de tireurs d'élite. De nouveaux appels à témoins sont lancés, une récompense de $500 000 est offerte et l'affaire a fait la une des talk-shows ce week-end à la télévision. Les habitants se focalisent sur une camionnette blanche qui a été vue à plusieurs reprises et le tueur fou alimente toutes les conversations comme en témoigne Adélaïde Barbé.
Désormais extrêmement vigilant. Et moi, je ne vais plus faire mes courses sans regarder partout. Si on voit une voiture blanche Encore qu'on connaît maintenant le profil du camion, donc on sait ce qu'il faut chercher. Mais en même temps, on ne sait pas si c'est vraiment un critère. Mais enfin, c'est sûr qu'on a tout le temps les yeux qui promènent partout pour essayer de voir ce qui se passe. Les enfants n'ont plus aucune activité, tout a été annulé, il n'y a plus de match de foot, les fêtes sont annulées. Donc ça aussi, ça crée une espèce de psychose dans les familles, parce que normalement, c'était un week-end de 3 jours et un week-end où il y avait énormément d'activités prévues. Donc tout ça fait que, bon, on est dans une ambiance d'angoisse. Imaginez bien que tout le monde cogite beaucoup et que dans les repas, c'est un sujet de conversation absolument permanent. On ne sait pas comment il va frapper la prochaine fois. Donc on fait des choix en fonction, effectivement, du sniper.
Et nous, pendant ce temps, nous découvrons que la première puissance militaire de la planète peut être mise à genoux par un tireur isolé.
8h20, Jean-Pierre Elkabbach, vous êtes à Washington avec Phil Gordon, l'ancien conseiller de Bill Clinton.
Phil Gordon, bonjour.
Bonjour.
Ici à Washington, vous paraissez avoir une triple obsession, une triple peur. D'abord, le tueur qui abat à sa guise et qui nargue l'État fédéral et toute une police mobilisée. Comment est-ce possible ?
Je pense que les attaques du tir à Washington montrent malheureusement que c'est assez facile de terroriser une population. Il y a des millions de gens dans la région et il y a une personne qui tue. Et c'est comme trouver un grain de sable dans le désert.
Il y a beaucoup d'armes en Amérique.
Il y a énormément d'armes en Amérique. Il y a même plus d'armes que de personnes.
Alors ce qui est impressionnant, c'est de voir que l'armée engage des hommes, des hélicoptères et même des avions de surveillance contre un seul tueur.
Oui, c'est ça. C'est le paradoxe qu'on a tellement de puissance, l'armée la plus grande du monde, mais on n'arrive même pas à arrêter une seule personne à Washington.
Le 24 octobre 2002, après 3 semaines d'enquête et grâce à de multiples témoignages, le FBI interpelle 2 hommes endormis dans leur voiture. John Allen Muhammad, 41 ans, vétéran de la guerre du Golfe, et son beau-fils de 17 ans, Lee Boyd Malvaux.
Jean-Bernard Cadier, vous êtes en direct de Washington. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ?
Écoutez, effectivement, l'affaire du sniper de Washington est peut-être en train de toucher à sa fin. 2 hommes sont actuellement en garde à vue. 2 hommes qui ont été arrêtés la nuit dernière à 3h du matin sur une station d'autoroute à 80 km au nord de Washington. Les autorités américaines semblent optimistes. Les médias américains, l'ensemble des médias américains disent que leurs sources policières leur disent qu'ils sont très optimistes et que ces 2 hommes sont effectivement les snipers qui terrorisaient Washington depuis 3 semaines.
Alors comment la police a réussi à faire le lien, à établir le lien entre le tueur et ces 2 hommes ?
Apparemment, le lien a été établi par une conversation téléphonique que le sniper a eue avec la police il y a quelques jours. Le sniper aurait donné une indication aux policiers en disant « Vous feriez bien d'aller vérifier ce qui s'est passé dans un hold-up il y a 1 mois dans l'Alabama ». Les policiers ont mené leur enquête. Ils ont trouvé des traces d'empreintes digitales dans ce hold-up. Ils ont identifié ces empreintes digitales et ces empreintes digitales les ont amenées à l'un des 2 hommes qui ont été arrêtés ce matin.
Les tueurs avaient percé un trou dans le coffre de leur voiture pour tirer au fusil d'assaut sans être repérés. Lee Boyd Malvaux écopera d'une peine de prison à vie. Et John Allen Muhammad, le vétéran de la guerre du Golfe, l'instigateur de tous ces assassinats, sera condamné à mort et exécuté 7 ans plus tard.
While he's operating, hey! You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag, inoculating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicated. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and come on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed. The parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. Notice, let me revel in basking the fact that I got everyone kissing my ass. And it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Fix your minutes and I'm tuning in and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting.
Testing, attention please.
Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me?
Now this looks like a job for me, so everybody just follow me.
C'était Eminem avec Without Me, son tube de 2002.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2002.
En 2002, on célèbre le 30e anniversaire de l'envoi du premier Français dans l'espace, Jean-Luc Chrétien. Et depuis, les Français ont fait bien du chemin, comme le raconte le patron des spationautes européens, le Français Jean-Pierre Énuré.
Je crois que l'esprit évolue parce que justement, il n'y a plus beaucoup de travail de pionnier, il n'y a plus de défrichage comme au temps de la Lune, comme au temps des premiers vols habités, les premiers rendez-vous, les premières sorties extravéhiculaires. Bon, il y a, on ne fait plus beaucoup de premières maintenant, c'est plutôt l'espace un peu industriel et technique. Alors c'est sûr qu'avec les générations, les mentalités changent, mais dès que on continuera à repartir pour des explorations lointaines. Dès qu'on repartira pour aller bousculer des frontières, je crois que cet esprit repartira.
C'est-à-dire qu'il faut Mars, il faut de nouvelles planètes.
Oui, ou même aller, même sans parler de Mars tout de suite, dont certains ont dit que ce n'est pas envisageable avant 2040. Donc on peut imaginer que dans un premier temps, on va aller installer des gens, une colonie qui travaille en permanence sur la Lune. On sait déjà ce qu'on va y faire en termes de science.
Et Jean-Pierre Énuré voit déjà venir une révolution, les voyages touristiques dans l'espace.
Je crois que ce qui va surtout changer la nature de cette activité, ça va être l'arrivée du secteur commercial dans cette activité qui semble inéluctable.
Ça, par rapport à la communication des...
Alors commercial, c'est-à-dire faire rentrer le secteur privé pour toutes sortes d'applications, y compris par exemple pour les plus terre-à-terre comme la publicité, le tourisme spatial, etc. Mais ça, la commercialisation, ça peut être aussi utiliser la station, offrir ce laboratoire de microgravité à des industriels pour leur recherche industrielle aussi. Tout ça va changer complètement les mentalités, va à mon avis scinder les corps d'astronautes en plusieurs catégories. La catégorie des pionniers, ceux qui continueront à aller plus loin, bousculer les frontières, les commerciaux qui exploiteront les moyens qui ont été mis en place, et puis le public, les visiteurs, les touristes, comme on veut les appeler.
Et effectivement, en cette année 2002, un entrepreneur richissime, Elon Musk, se lance dans la conquête spatiale. Il a 30 ans à peine, et il est multimillionnaire grâce à la revente de sa société PayPal. Pour conquérir l'espace, Elon Musk a créé la société SpaceX. Et après 10 ans de travail et beaucoup d'argent englouti, SpaceX lance sa première fusée dans l'espace, affrétée par la NASA.
SpaceX, Falcon Heavy, go for launch.
Les milliers de spectateurs de Cap Canaveral n'en peuvent plus. Le lancement retardé deux fois n'est désormais plus qu'une question de secondes.
3, 2, 1.
Un nuage de fumée, la fusée s'ébranle. Falcon Heavy s'élance tout droit dans le ciel bleu de Floride, poussé par 27 moteurs et des flammes géantes. Mais le plus important reste à venir. Deux lanceurs se séparent de la fusée et redescendent sur Terre vers Cap Canaveral. 8 minutes plus tard, leur atterrissage à la verticale tout en douceur est autant applaudi que le décollage. Pour Elon Musk, c'est un succès. Le milliardaire visionnaire veut désormais bâtir une fusée encore plus puissante. Objectif, Mars d'ici quelques années seulement.
De notre vivant, l'humanité aura une base sur la Lune et une ville sur Mars. Enfin, plutôt un village, les débuts d'une ville sur Mars.
En attendant, sa méga-fusée a lancé dans l'espace une voiture décapotable rouge Tesla avec un mannequin cosmonaute au volant et du David Bowie en boucle dans son autoradio. Elle devrait flotter en orbite pendant des dizaines de millions d'années. New York, planète Terre, Xavier Yvon, Europe 1.
Mars, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais 19 ans plus tard, en 2021, Elon Musk réussira un autre pari fou. Il enverra 4 touristes dans l'espace en autonomie totale, c'est-à-dire sans un seul astronaute professionnel. Ils y passeront 3 jours et ouvriront la porte à d'autres vols touristiques organisés par Elon Musk et sa société SpaceX.
J'ai demandé à la Lune et le Soleil. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune. Et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé
Indochine avec son tube « J'ai demandé à la Lune ».
Europe 1, on de la traconte. L'année 2002.
En mai 2002, la Coupe du monde de football se déroule en Corée du Sud et au Japon. Et l'équipe de France, tenante du titre, est forcément favorite. Soutenue par une chanson de Johnny Hallyday, pas vraiment mémorable. Pour leur premier match, les Bleus affrontent les Lions de la Teranga, autrement dit l'équipe du Sénégal. Et en Afrique, c'est un événement historique. Le Sénégal joue contre son ancien colonisateur. Le matin de la rencontre, sur Europe 1, Arlette Chabot reçoit le président sénégalais Abdoulaye Wade.
J'imagine que c'est un événement considérable chez vous au Sénégal.
C'est un événement même extraordinaire, vous savez. Le hasard fait bien des choses, que la France aujourd'hui se retrouve avec le Sénégal dans un match mondial et encore le premier match, c'est assez extraordinaire, c'est passionnant.
Alors est-ce que la vie va s'arrêter quotidienne totalement chez vous dans 5 heures?
Écoutez, je me garderai bien de prendre un décret pour mettre les gens en congé parce que la Constitution ne me le permet pas, puisque ça n'avait pas été prévu. Mais rassurez-vous, les gens seront tous devant leur télévision. Je ne suis pas sûr que les fonctionnaires iront au travail et les élèves et les étudiants sur les bancs de l'école ou de l'université.
Il paraît qu'ils ont un jour de congé quand même aujourd'hui. Même si vous n'avez pas pris de décret présidentiel, il n'y aura personne dans les salles de classe.
Ça, c'est clair.
Sur le papier, le match est complètement déséquilibré. La France compte 10 champions du monde et d'innombrables stars du foot européen. Et le Sénégal affiche un ou deux joueurs de talent, tous les autres évoluant dans des clubs modestes du championnat de France. Même si la France joue sans Zinedine Zidane blessé, elle est archi-favorite. Sauf que ce jour-là, le Sénégal réalise un exploit.
C'est un seul offensif très intéressant.
Djorkaeff, qui utilise le ballon.
centre de Mario. Oh là là, et but. En même temps, oh, but de Diop.
Papa Diop.
Sur centre de débordement de Diouf. Diop qui vient marquer le premier but de ce mondial.
Il va y avoir
à la 30e minute.
Les Français sont battus par le Sénégal 1-0. Pour la plus grande joie du coach du Sénégal, qui est français, Bruno Metsu.
C'est vrai que ce match-là, on l'avait rêvé, on l'a pensé et aujourd'hui on l'a réalisé. Je crois que c'est une grande satisfaction pour tout le groupe et pour tous les gens qui ont travaillé depuis 18 mois avec moi. Et je pense que c'est une grande récompense pour le pays et pour les joueurs.
Au Sénégal, autant vous dire que cette victoire est un tremblement de terre. Certains joueurs parlent même de deuxième indépendance. Tel un héros, le président sénégalais Abdoulaye Wade, juché sur un bus, parcourt les rues de Dakar en haranguant la foule.
En battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde. Jusqu'à la fin de la coupe, le Sénégal est championne du monde.
Pour les Français, la suite de la Coupe du Monde est un calvaire. Au match suivant, toujours sans Zidane, les Bleus affichent un douloureux 0-0 face à l'Uruguay. Mais quand Zidane revient pour le troisième match, on se remet à y croire. Pour se qualifier, il faut absolument battre le Danemark 2-0. Mais quand ça veut pas, eh ben ça veut pas.
2-0 pour le Danemark face à l'équipe de France. L'équipe de France qui fait tous les efforts offensifs. David Trezeguet vient de trouver la barre transversale alors qu'il était dans la surface de réparation. Le ballon a rebondi sur le sol, mais très vraisemblablement sur la ligne. Donc évidemment, le score n'évolue pas. Il y a eu tout à l'heure un tir lointain de Djibril Cissé en pleine course. Une superbe demi-volée qui a été contrée. Trezeguet est arrivé trop tard. Une frappe également de Wiltor dans la surface de réparation sur un excellent service de Zinedine Zidane. Mais cela ne veut pas rentrer.
Et voilà. Malgré le retour de Zizou, la France quitte la Coupe du Monde 2002 sans avoir inscrit le moindre but.
Et c'est vrai qu'on est triste. Et comme je l'ai dit, c'est difficile de pouvoir parler comme ça après un match. Mais c'est vrai que c'est le mot qui revient après ce match, surtout, c'est la déception. Bon, faut essayer de se dire qu'on a raté notre mondial et puis voilà. Quoi.
4 ans après la victoire de 1998, autant vous dire que les supporters français sont amers.
Ils n'ont pas mérité de gagner, hein. Ils n'ont pas mérité de passer le premier tour, donc c'est juste quoi, c'est juste. Le Danemark aujourd'hui était plus fort, le Sénégal était plus fort le premier jour. Il n'y a rien à ajouter, je crois. On dirait qu'il n'y a plus d'âme. Bon, on n'a pas eu de chance au début parce que Zidane ne jouait pas, mais même aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'ils aient envie de jouer au ballon.
Le canard enchaîne les titres, c'est la Bérézidane. Et à la Castellane, à Marseille, le quartier où a grandi Zidane, les habitants vivent cette défaite comme la leur.
Personne n'est descendu dans la rue et on préfère oublier et passer à autre chose.
C'est le jour et la nuit. Là, c'est tout noir, c'est sombre. On avait pris l'habitude en 98 de vivre des moments forts, des moments heureux. Quoi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas cette année.
Pendant ce temps-là, on joue au tennis à Roland-Garros. Et le cru 2002 de Roland-Garros est marqué par la victoire en finale de Serena Williams qui remporte le tournoi face à sa grande sœur Vénus. Patrice Dominguez est à l'époque le consultant tennis d'Europe 1.
C'est un match finalement à oublier sur le plan tennistique. Mais c'était plus une aventure humaine. C'est l'histoire de deux sœurs qui ont déjeuné ensemble et qui rigolaient ensemble pour les avoir vues avant d'entrer sur le court, 10 minutes avant, prendre une dernière collation ensemble. Il y avait une ambiance particulière au sein du clan Williams. Alors c'est vrai que par la suite, eh bien, on pourra dire qu'il y a eu beaucoup de fautes, qu'il y a eu beaucoup de déchets, qu'elles n'ont jamais bien joué en même temps, que Serena aurait dû prendre le large au début, qu'ensuite Vénus aurait dû gagner le premier set. Finalement, c'est Serena qui gagne en 2-7. Ce genre de match ne donne jamais de grands matchs. Mais finalement, on retiendra l'extraordinaire explosion de joie de Serena à la fin. Vénus Williams qui va chercher l'appareil de photo de famille dans les tribunes et qui fait la photo de sa sœur à côté de Jean-Claude Killy qui porte le trophée. Finalement, c'est ça l'histoire des Williams. Et ce sera ça pendant encore sûrement plusieurs années.
Patrice Dominguez est clairvoyant car les deux sœurs s'affronteront 7 autres fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Shakira avec son tube planétaire de 2002, Whenever, Wherever.
L'année 2002, on de la raconte sur Europe 1.
En mai 2002, le chanteur Renaud revient après 7 ans d'absence. 7 ans de passage à vide, en vérité.
J'étais en manque d'inspiration. J'avais l'impression que la source était tarie, que ma plume était asséchée, j'écrivais plus et... Par-dessus ça, une rupture conjugale, une séparation, un mal de vivre, l'âge et l'alcool, et au fond du trou. Mais je suis un peu embarrassé de parler de ma souffrance quand je viens d'assister au spectacle du monde, de sa vraie souffrance. La mienne est tout à fait dérisoire et tout à fait anecdotique. J'étais dépressif dans une belle brasserie parnassienne de Montparnasse, entouré d'amis.
C'est l'écriture de son nouvel album, Boucan d'enfer, qui a aidé Renaud à surmonter ses démons. Il en a tiré une chanson autobiographique, Docteur Renaud, Mister Renard.
Comme il y a eu Gainsbourg et Gainsbard, il y a le Renaud et le Renard. Le Renaud ne boit que de l'eau, le Renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ou tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renaud, Mister Renard.
Dans cet album, Renaud a pris la plume pour évoquer des thèmes d'actualité. Il y parle par exemple de la solitude d'un homme qui doit faire face à son homosexualité depuis gamin.
Toute sa vie à faire semblant d'être normal comme disent les gens. Jouer les machos à tout bout de champ. Garder ton secret d'enfant. Le petit bled, d'où tu viens, les gens te traitent pire qu'un chien. Il fait pas bon être pédé quand t'es entouré d'enculés, petit pédé.
Renaud aborde un autre thème de l'actualité, les attentats du 11 septembre. Sujet brûlant, puisque ça remonte à il y a un an à peine. La chanson s'intitule Manhattan Kaboul, elle est triste. Et Renaud l'interprète en duo avec Axel Red.
Comment vous avez eu l'idée de ce duo avec Axel Red?
Tout simplement, j'ai écrit les paroles de la musique en studio, les playbacks étaient déjà enregistrés, j'ai écrit ces paroles assez rapidement, au masculin et au féminin, il me fallait une voix féminine. Alors j'ai choisi la plus belle voix féminine de la chanson francophone.
Petit portoricain, bien intégré quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
1747 s'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel. La violence éternelle.
Solon gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam de tyran.
Cela ont-ils jamais lu le Coran.
C'était Renaud et Axel Red, Manhattan, Kaboul. Ce duo est l'un des grands succès de l'année 2002. Il obtiendra la victoire de la musique de la meilleure chanson de l'année.
Je me demandais qu'est-ce qui fait que c'est celle-là qui est sortie dans cet album complet avec beaucoup de chansons un peu différentes. Est-ce qu'on peut prévoir ce coup-là? Est-ce qu'on le voit venir? Celle-là est sortie.
Si on savait, s'il y avait une recette, on en ferait plein.
Non, je sais bien. Quel était le déclic selon toi, selon vous, Axel?
Je sais pas, la mélodie est...
Oui.
Je peux me permettre de le dire parce que c'est pas moi qui l'ai fait, elle est d'enfer. Elle a un côté tubesque et puis elle plaît. Les paroles ont touché le cœur des gens, je sais pas.
En 2002, un autre duo cartonne, Étienne Daho et Dany, qui chantent comme un boomerang. Michel Denisot, à l'époque, reçoit Dany sur Europe 1.
Icône par Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé.
Bonjour Dany.
Bonjour Michel. Ça va?
J'écoute cette chanson au moins deux fois par semaine depuis des mois.
Ça fait plaisir.
Vous êtes une icône.
Alors, plusieurs fois j'ai regardé le mot icône, ce que ça voulait dire dans le dictionnaire. Alors, aujourd'hui, il y a les petites icônes qu'on met sur les ordinateurs. Et celles d'avant, c'est toujours des images figées. Avec des pierres précieuses autour, mais figées. Et
Vous n'êtes pas figé?
Je crois pas.
Non, je n'ai pas l'impression. Non, vous avez eu 1000 vies.
Peut-être, 1001. Peut-être.
Oui, la dernière.
Oui. Ouais. Bah, j'ai eu 1000 vies, j'ai eu une vie mouvementée.
Cette chanson, comme un boomerang, a une histoire vieille de 27 ans. Elle a été écrite en 1975 par Serge Gainsbourg pour Dany, qui devait concourir à l'Eurovision. Mais le comité français n'a pas sélectionné Dany et sa chanson. Alors Gainsbourg a repris la chanson et il l'a interprétée.
Je sens des boules et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés.
Quand Étienne Daho apprend que cette chanson a été écrite pour Dany, il décide de tenter le coup avec elle.
Et puis un jour, Étienne, j'ai une épreuve dans ma vie, Étienne m'a dit, il faut que tu recommences à chanter, c'est pas possible, cette chanson, il faut la faire, et tout ça. Donc on a commencé à s'y mettre, et puis voilà, on a fait une voix lead au studio, et puis au mixage... Tout le monde trouvait que c'était un super duo.
C'est magnifique, ouais. Étienne Daho, c'est une icône aussi pour vous.
Oui, c'est un ami. Je ne sais pas trop si je le mettrais figé quelque part, parce que lui aussi, il est très visionnaire et il bouge tout le temps.
Je sens des boums et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues,
comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté.
Je sens des booms et des bangs
agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés.
À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner.
Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer.
Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer.
Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue,
c'est à toi que je le devrais.
Voilà, c'était Dany et Étienne Daho avec leur carton de 2002 comme un boomerang qui conclut notre quatrième épisode. Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski m'ont aidé à remonter le fil du temps. La suite de notre exploration de l'année 2002 dans le cinquième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.